Donc la paracha la semaine dernière plutôt, paracha de Noach, la Torah a dit que Terach, qui est présenté comme étant le père d'Abraham, le père d'Abraham, de Nahor et de Haran, que Terach, qui était, pas comment est-ce qu'il faut l'appeler, fabricant principal d'idoles chez Nimrod, enfin là-bas en Mésopotamie, vraisemblablement, d'après les Midrashim, il est devenu persona non grata grâce à Abraham, parce que comme Abraham a cassé les idoles, alors bon, on a dit que certainement il avait dû entendre des choses chez son père. Et donc quelque chose qui... Oh. Aimer, vous avez fait entrer Yankel?
Oui, 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 c'est fait.
Ou qu'est-ce
oui,
que...
il est là, oui.
Je sais pas.
C'était pour ne pas vous interrompre.
Oui, non, c'est très bien. C'est pour ça qu'on vous a aussi donné cette possibilité de faire entrer des gens. Et donc, et il est parti en direction de Canaan. Donc, il est là en Mésopotamie et il va vers le sud, quoi, vers le ouais, sud-ouest un peu, probablement. Et il arrive, il est parti et il est arrivé quelque part en Syrie ou un endroit qui s'appelle Haran. Et ils sont restés accrochés là. Qui est-ce qui était venu avec lui? Abraham est venu avec lui. Son fils Nahor, lui, il n'est pas venu. Nahor, il est resté en Mésopotamie. Visiblement, Terach, il s'était un peu rapproché d'Abraham. Et Nahor, lui, il est resté complètement idolâtre, donc il n'a pas voulu se joindre à eux. Et donc, il a pris, Terach avait pris son fils Abraham, il a pris son petit-fils Lot, et évidemment, la femme d'Abraham. Et puis, bon, ils sont partis. Pourquoi est-ce qu'il est parti en direction de Canaan? Alors, certains disent que de Terach aussi, dans le Midrash, on voit que Terach aussi, on l'appelait Terach à Ivri. Pas seulement Abraham à Ivri, mais Terach aussi. Et maintenant, ce mot de Ivri, chez Abraham, on l'interprète en général en disant qu'il était Me'ever Echad et le reste du monde était Me'ever Sheni. C'est-à-dire qu'il était d'un côté du fleuve et le reste du monde de l'autre côté du fleuve. Façon de dire qu'il était complètement. Mais on peut aussi dire que Ever, Ivri, ça vient de Ever. C'est-à-dire qu'il était un descendant de, un parent de Ever. C'est ça le. Et que, donc, c'est la raison pour laquelle, s'il était un parent de Ever, peut-être avant d'aller en Mésopotamie, peut-être qu'il l'a vécu, ou ses attaches familiales étaient en Canaan. Parce que Shem et Ever sont en Canaan. Shem, il est roi de Shalem, il est roi de Yerushalayim, de ce qui va devenir Jérusalem. On va en parler après. Et donc, c'est la raison pour laquelle, a priori, il est parti dans cette direction-là. Et ils sont arrivés à Haran, ils sont restés assez longtemps pour qu'ils s'enrichissent et qu'ils aient un impact sur la société et qu'ils aient réussi à convaincre des gens de l'endroit d'adhérer aux valeurs d'Abraham. On pourrait dire la conversion, mais bon, à ce moment-là, je ne sais pas ce que... sont ça exactement, mais ça s'appelle un nefesh hacher asu becharan. Ils ont fait des âmes, ils ont réussi à transformer à Haran. Pardon? Il est quoi? Et pourquoi, comment ça se fait qu'il y a Msika? Oui, c'est toujours le même Zoom. Il est toutes les semaines, il est. Pour lui donner ce numéro, vérifier que c'est bon. Je ne comprends pas pourquoi. D'habitude, il est tout le temps là. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, excusez-moi, j'étais.
Non, c'est Rachel, que M. Lupescu, il a tout à coup des doutes. Est-ce que j'imagine qu'il n'est pas arrivé à se connecter, alors qu'il le fait toutes les semaines.
J'ai un message de lui, je vais lui envoyer le lien.
Non, mais ça va, il a parlé à Rachel.
Non, il n'a pas envoyé.
Alors envoyez-lui le lien.
Je lui renvoie le lien.
D'accord, merci beaucoup.
Bien. Donc, ils ont fait des âmes, ils ont rapproché les gens, donc ils ont des élèves. Et puis un jour, donc ils sont partis dans cette direction-là, ils ont vécu à cet endroit-là. Et là, comme vous le savez, la Torah, elle nous dit que Terach est mort à Haran. Et puis seulement après, dans Parashat Lech Lecha, on nous raconte que Avraham est parti. Mais Rashi vend la mèche que Avraham il est parti, il a abandonné son vieux père. Et comme ça faisait pas très beau dans le tableau, alors c'est pas dit dans la Torah. Mais si on fait le compte, et Rashi a fait le compte, et Rashi il a vendu la mèche, que Avraham a vraiment abandonné Terach. Et du coup, probablement, Terach est retourné un peu dans la chèvre de Nahor, de son fils idolâtre. Il est un peu retourné de là où il venait, si son fils l'a abandonné. Alors, c'était effectivement sur l'ordre d'Hachem, mais c'est pas, on peut pas, a priori, abandonner son père, je veux dire, son vieux père. C'est Abraham, mais à ce moment-là, il a 75 ans. Donc, le Terach, il doit être un peu plus âgé.
Je connais pas le message par là, Hachem a supprimé mon équilibre de Abraham.
Oui, bon, après coup, on va expliquer qu'Abraham, il n'a pas. Pourquoi? C'est même pas assez nécessaire, parce que la halakha, elle est que les Avot, ils ont accompli la Torah avant qu'elle soit donnée. Mais quand ils ont jugé qu'ils devaient faire des choses autrement que ce que la Torah allait imposer plus tard, comme Yaakov qui a épousé deux sœurs, comme Amram qui a épousé sa tante, etc. Donc ces gens-là, on est avant Matan Torah, et avant Matan Torah, il y avait la possibilité de considérer qu'on pouvait mettre entre parenthèses certaines des halakhot quand on pensait que pour le développement du clan d'Israël, etc., c'était mieux. On peut aussi dire que s'il a pensé que puisqu'Hachem lui dit de partir, ben voilà, il peut partir. Alors, on peut dire que quand il lui dit de partir, c'est ça l'abolition de la mitzvah de Kibbud Av V'Em. Hachem te dit pars, et Hachem il sait bien que ça veut partir, ça veut dire abandonner son père. Hachem lui ordonne d'abandonner son père. Bon, Abraham est parti, et la Torah commence dans l'Ech Lecha avec cet ordre qu'Hachem donne à Avraham Avinu, le fameux l'Ech Lecha. Va-t'en pour toi. Et puis on lui dit tu t'en vas et tu abandonnes tout. Ça veut dire tu coupes avec le passé, tu coupes avec ton pays, avec ta patrie, avec la maison paternelle, et tu t'en vas dans la direction du pays que je te montrerai. C'est-à-dire, Hachem ne lui dit pas où il doit partir, où il va l'amener. Quand on dit que tu quittes ton pays et ta patrie, c'est déjà fait. Parce que quand Terach est parti, lui est parti avec. Donc certains disent que ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il va faire le travail intérieur faut vraiment couper, alors qu'avant, il avait seulement suivi son père, disons. Maintenant, à titre personnel, il s'en va aussi de son pays et de sa patrie. Et il accepte de partir pour on ne sait pas où. La vérité, c'est qu'on ne sait pas non plus dans quelle direction il va partir. Hachem lui dit, le pays que je te montrerai, mais il faut commencer à lui dire de partir. Et tu pars dans la direction du sud, du nord, où tu vas. Où il faut aller pour que Hachem lui montre. Alors, ou bien la Torah ne le dit pas, mais elle lui a dit où il devait partir. Parce que, en fait, il est allé, le passouf va dire plus bas que il est pas, la lechet artsa Kenaan. Ils sont partis pour aller en direction du pays de Kenaan. Voyavo ou artsa Kenaan. Partir en direction de Kenaan. Alors, aller en direction de Kenaan, c'était en vérité continuer dans la même direction que celle que son père avait prise. Son père était parti dans cette direction-là. Oui, il continue. Ou alors, il faut dire que la Torah ne le dit pas, mais Hachem lui a dit, tu pars direction du pays de Kenaan, ou bien il a donné la direction, je ne sais pas, en lui disant, tu pars dans telle direction, en donnant, je ne sais pas, la latitude, longitude, etc. quoi. Dans quelle direction il doit partir. Alors, il part, et selon l'ordre d'Hachem, et Hachem lui a dit que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de partir, quitter un endroit où on était installé, il avait un renom, il avait des élèves, etc., il dit, tu t'en vas. C'est quoi, on perd tout, quoi. Alors, Hachem lui dit, non, je ferai de toi un grand peuple. Il faut mettre en scène, hein. Ce bonhomme auquel Hachem dit, je veux faire de toi un grand peuple, il n'a pas d'enfant. Et il a 75 ans. Et bon, pour dire la vérité, le Midrash dit que Abraham, il était tum-tum, et que Sarah, elle était complètement stérile, elle n'avait pas d'utérus. Donc à eux deux, ils n'avaient pas beaucoup de chance d'avoir des enfants. Il dit, voilà, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je ferai en sorte que tu vas avoir un grand renom, ton nom va être grand, tu seras une bracha, au point que ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Et toutes les familles de la terre vont être bénies grâce à toi. Et Abraham est allé, comme Hachem lui avait dit, et est allé avec lui aussi Lot. On dit, va yeller. C'est pas Abraham qui a pris Lot, c'est Lot qui a décidé d'aller avec Abraham. Et il y va de lui-même, sans avoir reçu. Lui aussi, il quitte d'une certaine manière son grand-père, et c'est aussi sa patrie, etc. Il quitte aussi la maison paternelle, dans la mesure où probablement sa maison paternelle, c'était devenu la maison de Terah, puisque son père est mort. Bon, lui aussi, il part. Et évidemment, Abraham a pris avec lui, là du coup, il a pris Sarai Ishto, sa femme qui s'appelle Sarai, et il prend Lot. Et là, du coup, ici, c'est marqué, tout à coup, que Abraham le prend. Vet Lot ben Achiv. Vet kol rechushav. Et toutes leurs richesses. Vet anefesh asher asu bechavan. Vayetsu, ils sont partis pour aller en direction de Kenaan. Ils sont arrivés en Kenaan. C'est-à-dire, la Torah ne va pas s'arrêter, ne va pas nous raconter le voyage. Ils sont partis pour aller en Kenaan, ils sont arrivés en Kenaan, voilà, on ne va pas raconter le voyage. Maintenant, il arrive dans le pays de Kenaan, qui est Eretz Israël, hein, et il va entrer dans le pays, il va descendre jusqu'à Shrem, c'est-à-dire jusqu'à Naplouse. Shem, c'est Naplouse. Il descend jusqu'à Naplouse. Et à ce moment-là, premièrement, donc là-bas, c'est, il descend vers les fameuses chaînées de Morée, là, les chaînées de Mamré, Elon Morée, une espèce de plaine de Morée. Et on nous précise que le Cananéen était l'habitant, à ce moment-là, c'est le Cananéen. Et là, Vayera Hachem El Avram. Hachem apparaît à Avram, il se montre à Avram, il apparaît. Quand Hachem lui a parlé au début de la paracha, on ne dit pas qu'Hachem se soit montré à lui. Pour certains, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, etc., ils disent que tout ça, c'est des visions dans la tête d'Abraham. Quand il n'y a pas eu une voix qui a parlé à Abraham, c'est une voix intérieure. Donc, dont la Torah nous dit, c'est Hachem qui lui parle, mais bon, c'est pas que Hachem lui a parlé comme il va parler à Moshe Rabbeinu, ou bien comme il va lui parler à lui plus bas. Là, maintenant, donc, quand ils sont en Eretz Kinaan, comme si Hachem ne se dévoile pas à lui tant qu'il est à Haran, il est en dehors d'Eretz Israël. On sait bien qu'il n'y a pas de nevoua en dehors d'Eretz Israël, ça on le sait de Yona. Yona, il a pensé, quand Hachem lui a donné un ordre, il a pensé qu'il a voulu s'enfuir, il s'est dit « je vais aller en Koutz-Laretz ». Et donc, ça, la nevoie que j'ai reçue, elle sera caduque, je ne suis plus en RSS. Une fois qu'on a reçu la nevoie, même si tu vois, on est en Chutz Laretz, ça ne sert à rien. Tu l'as reçue. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de nevoie en Chutz Laretz, c'est très possible. C'est pour ça que ce n'est pas un dévoilement. Le dévoilement, il est en Eretz Kenan, parce qu'à ce moment-là, on est sur la terre d'Israël. Donc Hachem se dévoile à lui, il lui parle, et il lui promet, il dit, le Zaracha etten et haaretz hazot. Il lui dit, je donnerai à ta descendance cette terre là, sur laquelle tu es. Alors vous remarquez qu'il ne lui a pas dit, je te donnerai à toi et à ta descendance. Il dit, je le donnerai à ta descendance. Plus bas, on verra qu'il va lui donner à lui et à la descendance. Mais pour l'instant, si on s'en tient au texte, c'est seulement à la descendance, que lui, il ne lui a pas encore donné la terre. Et alors, Abraham construit, à ce moment-là, c'est la première fois qu'on nous dit qu'il fait ça, il construit un misbéach, un hôtel pour Hachem. Pour Hachem qui s'est dévoilé à lui. Qu'est-ce qu'il a fait sur cet autel? Est-ce qu'il a fait un corban? On ne nous dit pas du tout. On verra plus bas certaines choses qu'il va faire sur d'autres autels qu'il va construire, des misbechot, mais là on ne dit rien. La Torah ne dit rien sur... Il a érigé un misbeach, c'est tout. Vraisemblablement, il a dû faire quelque chose, mais la Torah ne nous dit pas quoi. Et du coup, il continue d'aller vers le sud. Et il s'installe d'une certaine manière entre Bethel et Haï. Et là-bas, de nouveau, il construit un nouveau misbère pour Hachem. Seulement là-bas, Vayikra b'shem Hachem. Là-bas, il a crié le nom d'Hachem. Certains disent que c'est comme ça que ça faisait, construisait un misbéa et criait le nom d'Hachem. Certains disent que le misbéa, c'était une stèle verticale, donc, sur laquelle il mettait de l'huile. C'est une onction. C'est ça le... On ne voit pas qu'il apporte un corban. Abraham ne va pas apporter de korbanot, sauf après la Akedah. Ou alors, à ce moment-là, il apporte un korban qui est une substitution du corps humain. Il va substituer le bélier au corps de son fils Yitzhak. Il va faire du bélier la hola qu'il avait compris, lui, devoir faire Yitzhak, de transformer Yitzhak en hola. Maintenant, il va remplacer Yitzhak par le bélier qu'il a vu coincé dans les buissons, on verra. Mais là, il n'y a pas de korbanot. Et donc, il continue, il va vers Anegba, il va vers le sud, direction Negev. Bon, alors, il vient de recevoir une promesse comme quoi ce pays va être le pays qui va, qu'Hachem va donner à ses enfants, à ses descendants. Mais en attendant, dans ce pays, la première chose qu'il rencontre vraiment, c'est une famine. Il y a une famine dans le pays. C'est une épreuve. Hachem lui a annoncé qu'il va lui donner toutes sortes de brachot là où, dans ce pays. Il n'a pas dit qu'il lui donnerait le pays, mais là, à ce moment-là, il lui a dit, je vais grandir ton nom, tu vas venir, et là, qu'est-ce qu'il arrive? Bon, il faut, et va yéré d'Avram, Mitzrayma. Avram descend en Égypte, la Gourcham. La Gourcham, c'est comme Yaakov. La Gour, velo l'Ishtaker. Pas pour s'y installer, mais pour y habiter le temps que la famine passe. Le temps qu'ils puissent rentrer en Eretz Canaan, sur cette terre, quand la famine aura passé. Et pourquoi il fait ça? Parce que Kaved Ara'av Baras, la famine est vraiment très difficile à supporter en Eretz, dans le pays. Alors cette descente en... Juste en deux mots, cette descente en Égypte, c'est la Marloket. Le Ramban y critique énormément Avraham Avinu. Il faut être le Ramban pour oser, mais il le fait. Il dit que c'est une erreur grossière, un manque d'émouna de la part d'Avraham d'être descendu en Égypte. Il aurait dû rester. Razal a l'air de dire que il ne pouvait pas rester. Il n'a plus un sou. Parce que le Midrash va dire que quand il descend en Égypte, il laisse des ardoises partout. Il n'a pas de quoi payer. Il laisse des ardoises, et quand il va remonter, quand il sera riche, il va repasser par ces endroits, il va payer ses ardoises. Il va payer les ardoises qu'il avait laissées. Je ne sais pas comment on peut laisser des ardoises. Les gens lui faisaient confiance. Je ne sais pas pourquoi. Il avait une bonne tête. Pourquoi il n'y a pas, ils ne se sont pas passés le mot, celui-là, il ne faut pas l'accepter dans l'auberge parce que il ne faut rien lui donner, il n'a pas un sou. En tout cas, il arrive en Égypte. Et quand il arrive aux abords de l'Égypte, tout à coup, il se réveille, tu vois quoi. Vayomer el Sarai Ishto, il dit à Sarai, sa femme, voilà, Iné. Inéna, ça veut dire. Quelque chose de nouveau arrive, quoi. Iné. Il dit, Yadati ki shaifat mareat. Jusque-là, je savais pas. Mais maintenant, je prends conscience que tu es très belle. Et évidemment, les Égyptiens, ils vont pas, ils vont vouloir te prendre. Et pour te prendre, ils vont me tuer. Parce qu'en fait, comme tu es extrêmement belle, ils vont te prendre, mais pas pour eux, ils vont te prendre pour Paro. Et le Midrash dit que les Égyptiens, finalement, ils ont eu peur. Il y a probablement plein d'officiers ou d'autres qui auraient bien rapté ça, mais ils se sont dit, si jamais Paro, il l'entend, qu'on a pris pour nous, cette femme qui est de Sarah, on dit dans Chazal qu'elle était là, avec une, elle était une des quatre plus belles femmes du monde. Donc, si Paro il entend qu'on l'a pris et qu'on ne lui a pas amené dans son harem, on va passer un mauvais quart d'heure. Donc, ils ont eu peur de la prendre pour eux. Ils en ont parlé et c'est arrivé aux oreilles de Paro et Paro a donné l'ordre de la prendre. Mais Paro, c'est un type civilisé, il ne va pas piquer la femme de quelqu'un. Mais si, par malheur, cette femme se retrouve veuve, alors il va la protéger en plus et il la prendra. Donc il y a bien quelqu'un qui va se dévouer pour résoudre le problème et faire de cette pauvre femme une veuve. Et ça, Abraham, il a bien compris que c'est ça qui allait se passer. Et donc, il va dire à Sarai, fais-toi passer pour ma sœur. Et alors là, on va lire ensemble le verset, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, c'est le verset Yud Gimel, si vous avez... non, c'est même... Yud Bet, oui. Vaya ki ru otach amitzrim. Voilà, quand les Égyptiens vont te voir, ve'amru ishto zot, et ils vont dire, ah, elle est mariée, cette femme, c'est sa femme à lui, ve'argu oti, votach yechayu. Ils vont me tuer, et toi, ils vont pas te tuer, ils vont te faire vivre, mais ça veut dire que tu vas atterrir dans le harem de Paro. Alors, imrina achotiat, dis, s'il te plaît, que tu es ma sœur. Leman yitavli ba'avurer v'chayta nafshi biglalem. Là, ils ont traduit, dis, je t'en prie que tu es ma sœur, de sorte qu'il me soit fait du bien par égard pour toi et que je reste en vie grâce à toi. Effectivement, quand il arrive en Égypte, c'est exactement ce qui se passe. La fille, c'est marqué, la femme est prise, la dernière ligne. Vatuka Haïcha Bet Paro, elle a été prise dans le harem de Paro. Et on a fait, Oula Abraham et Tif Bavura. Et Abraham, il a été couvert de cadeaux. Parce que il voulait il voulait les bonnes grâces du frère. Que le frère soit d'accord que sa sœur ait l'extrême honneur de faire partie du harem de Paro. Et Abraham, Bailo, Son, Bakar, Bachamorim, Bavadim, Mushfachot, Atonot, Gmalim. Je ne sais pas qu'ils lui ont donné une bourse en or, tout, non. De tout. Ils m'ont donné de tout. Et je voudrais juste savoir. Quand vous lisez ce passage, qu'est-ce qui vous vient comme idée? Passage qui dit donc, dis que tu es ma sœur afin que itavli ba'avurer v'chayta nafshi biglalech. Il y a là quelque chose qui moi me dérange. C'est pas obligatoire que ça vous dérange, mais regardez quand même ce verset. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans ce verset? Parce que bon, mais ça, c'est normal qu'ils vont lui faire du. Il est le frère, c'est sûr qu'on va lui faire du bien. Ah ouais, c'est ça. L'histoire, c'est que ce qui était très étonnant, c'est qu'il dit d'abord le man itavli bavurer v'chayta nafshi biglalech. D'abord, la première chose, c'est grâce à toi, je vais survivre et on va me donner aussi des biens. Mais les biens d'abord, avant la survie, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué dans ce sens-là. Il faut trouver une explication. En plus, c'est sûr que avant de lui donner des biens, ben, ils lui donneront des biens seulement s'il le tue, quoi. Si. Et donc, il n'y a plus besoin de donner des biens. C'est-à-dire, ou bien ils le tuent, à ce moment-là, ils la prennent, il n'y a pas de problème, ou alors, si effectivement, elle se fait passer pour la sœur, et donc ça marche, alors ils vont le couvrir de biens, et il aura donc eu la vie sauve grâce à elle aussi. Bon, c'est pas une grande question, mais je trouve étrange qu'on cite d'abord les biens et après la vie, quoi. Alors, il faut pas regarder les choses de cette manière seulement, c'est, on peut expliquer pourquoi Abraham lui dit cela. C'est pas simplement pour qu'il ait la vie sauve. C'est qu'en réalité, le raisonnement c'est, s'il me tue et qu'il te prenne, bon, tu seras dans le harem à vie, personne n'ira te chercher là-bas. Si je survis, alors éventuellement je pourrais te racheter ou je pourrais faire quelque chose pour essayer de te sauver. Mais si je suis mort, tu restes à vie là-bas. Donc ce n'est pas seulement pour moi, mais que toi aussi, ta vie, bon, elle va changer. S'il me tue, toi tu vas vivre, mais tu vas vivre dans le harem de Paro. Et la Torah ne dit pas que Sarah était d'accord. Elle lui a pas dit oui, mais elle a rien dit. Elle a laissé dire que c'était son frère. Il y avait un autre frère. Il y avait Lot aussi. Lot aussi, c'est son frère à Sarah. Lui aussi va être couvert de richesses. Et lui non plus, il n'a pas dénoncé. C'est un des mérites de Lot. C'est qu'il n'a pas dénoncé Abraham. Parce que s'il avait dénoncé Abraham, il aurait été seul bénéficiaire des largesses de Paro pour qu'il soit d'accord de donner sa sœur à Paro. Lui, il a eu cette grandeur d'âme, si on peut parler comme ça, de ne pas dénoncer Abraham. Donc c'est ce qui se passe. Et alors, bon, le problème, c'est qu'Hachem n'a pas laissé faire la situation. Il a sauvé, il est intervenu pour sauver Sarah. Et il y a eu des. Toute la maisonnée de Paro a été couverte de plaies, etc. Et Paro, il s'est dit, bon, c'est pas un hasard. Quel est l'événement qui a précédé ça? C'est l'histoire, le fait que j'ai pris cette femme-là. Donc, il a fait pression sur Sarah jusqu'à ce qu'elle avoue qu'elle était la femme d'Abraham, mais pas sa sœur. Du coup, il a convoqué Abraham et il lui a passé un savon. Il lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Moi, j'ai pris ce pour épouse. C'est pas mon kavod, je veux dire, de prendre la femme de quelqu'un. Et donc, ils le virent complètement. Bon, prends ta femme et tire-toi. Et il donne une escorte pour le faire sortir du pays, en quelque sorte. Bon, nommé, je sais pas, un Darmanin ou un truc pour le faire sortir du pays, quoi. Expulsé. Et alors, d'un côté, je veux dire, il l'a expulsé. D'un autre côté, lui avoir donné une escorte, bon, bien sûr, on peut dire que c'est pour être sûr qu'il ne va pas s'éterniser en Égypte. Visiblement, il va pouvoir vivre, ou bien la famine est terminée, déjà, elle a duré juste le temps qu'il fallait pour qu'il doive descendre en Égypte, ou alors que maintenant qu'il a plein de richesses, il va pouvoir mieux tenir le coup, jusqu'à la fin de la famine. Mais il remonte en Eretz Kenan, Elias. Je n'ai pas marqué que la famine était terminée. Et le problème, ben, c'est pas un grand problème, on peut aussi dire que l'escorte, c'était aussi pour les protéger. Parce que maintenant que Paro n'a pas voulu la femme, mais elle est toujours aussi belle. Donc il y a toujours plein de gens qui auraient bien envie de la prendre. Et maintenant, on pourrait la prendre. Paro, il va encore. Et Paro, il a pas non, on peut dire comme ça, Paro voulait pas que quelqu'un d'autre ait cette femme parce que, bon, elle, c'est la plus belle, c'est ou bien lui ou personne, quoi. Quelqu'un n'aura pas pour moi, dans mon royaume, quoi. Et d'un autre côté, justement, ça a protégé Abraham et Sarah, personne n'a pu les attaquer parce qu'il y avait une escorte officielle qui protège, les a protégés jusqu'à ce qu'ils sortent du pays. Donc, il y a les deux choses. En fait, eux, ils ont, c'est un bénéfice en réalité. C'est pas seulement humiliant, etc., parce qu'on les a escortés jusqu'à ce qu'ils sortent. C'est, ça peut s'interpréter de façon positive. Pourquoi Paro l'a fait, c'est une chose, mais de facto, ça a quand même protégé Abraham et Sarah de toute tentative de n'importe qui d'essayer de rapter Sarah. Tuer Abraham pour rapter Sarah. On va voir plus loin que il y a quelqu'un d'autre qui va vouloir aussi la mort d'Abraham pour avoir Sarah, c'est le fameux Og Melech HaBashan, le géant Og. C'est lui qui va dire à Abraham que Lot est prisonnier dans la guerre des quatre et cinq rois. Il vient dire à Abraham que Lot est prisonnier. Il espère que Abraham va pas rester les bras ballants et qu'il va aller faire la guerre pour délivrer Lot et que, en infériorité numérique évidente, il va se faire tuer. Franchement, lui, Og, pourra prendre Sarah, pour épouser Sarah. Voilà, Sarah est un objet de convoitise, trop belle, quoi, pour lui. Donc, le bilan pour Abraham, c'est un bilan très positif, en fait. Je ne sais pas comment. On n'a pas connaissance de. L'état d'âme de Sarah. Il est quand même arrivé un sale coup, quoi, Sarah. Elle n'était pas sûre que Hachem allait intervenir pour elle. C'est-à-dire, ce n'était pas du tout couru d'avance. Donc, on pensait à un moment donné que, voilà, je suis dans la harem et. On ne pouvait pas penser que. Abraham allait pouvoir par la force récupérer ça. Il n'y a pas Abraham contre l'Égypte, c'est pas possible. Ils ont abusé même en tout cas. Alors, ils sont tous les deux très riches, Abraham et Lot. Et c'est pas possible. Quand ils sont sur le même terrain, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Il n'y a pas la place, enfin, ils pensent qu'il n'y a pas la place pour les deux comme ça, au même endroit. Et en plus, les bergers de Lot considèrent que puisque Abraham n'a pas d'héritier, c'est Lot qui sera son héritier, et que par conséquent, ils peuvent prendre une avance sur héritage, et laisser, par exemple, paître leurs troupeaux, y compris sur les terres d'Abraham. Parce que finalement, ça sera bientôt à eux. Abraham est un vieillard, et il n'a pas d'héritier. Donc, son héritier, c'est Lot. Alors, Abraham met le marché en main à Lot, il lui dit, on va devoir se séparer. C'est toi qui choisis. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Si tu vas à droite, tu vas à gauche. Et l'autre choisit le côté de Sdom. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est le côté le plus verdoyant, mieux irrigué, etc. Bon, ça veut dire que la nature là-bas est bien plus intéressante que la nature là où Abraham, sur le terrain d'Abraham. Seulement, il y a les hommes. Là-bas, il y a Sdom avec les constitutions, les lois de Sdom, qui sont des lois absolument iniques, quoi. Enfin, c'est-à-dire des lois qui interdisent l'hospitalité, etc. Des lois affreuses. Et donc, des gens pourris jusqu'à l'os, quoi. Et enfin, les Midrashim disent que Lot a pensé qu'il arriverait à les convaincre. Il s'est dit, Abraham, il a fait les Nefashot à Haran, moi aussi, je vais pouvoir faire la même chose à Sdom. Il a, jusqu'au bout, il a cru qu'il y arriverait. Il a même cru qu'il y était arrivé. Au moment de la destruction de Sdom, il a cru qu'il y était arrivé. Et bon. Après, Avraham Avinu a eu peur que. Non, d'abord, Hachem lui refait une promesse et il lui dit, Hachem lui dit à Abraham, il lui dit, après la séparation avec Lot, il lui dit, lève les yeux, regarde, depuis l'endroit où tu te tiens, regarde, nord, sud, est, ouest, tout ça, tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois, et kol haaretz asher ata roé, lecha etnena ulzeracha adona. Je la donnerai à toi et à ta descendance. Ici, c'est toi et ta descendance, pas seulement la descendance, mais lui aussi. Je la donnerai à toi. Définitivement. Et il lui annonce que sa descendance sera aussi aussi nombreuses que les grains de sable de la mer, en fait. Non, que la poussière de la terre, pardon. Et ensuite, il lui dit, ben, promène-toi dans le pays et fais Hazaka, en quelque sorte. Acquiert, enfin, promène-toi en propriétaire sur cette terre, prends possession de cette terre. Et donc, c'est ce qu'il va faire, il va s'installer à Hébron et il va prendre possession de cette terre. Et là-bas, de nouveau, il va construire un misbéach pour Hachem. Ensuite, je vais sauter l'épisode des guerres des quatre et cinq rois. Bon, alors, ce qui était important, c'est ce que je vous ai dit, c'est que ceux qui se sont révoltés, dans ceux qui se sont révoltés, il y avait Sdom. Ils ont fait la guerre contre ceux qui étaient leurs suzerains. Ils auraient dû normalement payer un tribut. Pendant un certain temps, ils ont arrêté de payer. Donc, au bout d'un moment, il en a eu marre. Dans leur mère, il était descendu faire la guerre et il les a battus. Le roi de Sdom a perdu la guerre et ils tombent dans des puits de pétrole, enfin de bitume, etc. Et alors, ils ont raconté, les gens de Sdom, que toute cette révolte, elle a été fomentée par Lot. C'est Lot qui les a conseillés de se révolter, etc. Et donc, on a dit que c'était Lot le principal fautif de toute cette guerre. Et en vérité, à un moment donné, quand ils ont fait prisonnier Lot, ils ont pensé que c'était Abraham. L'autre semble-t-il suffisamment à Abraham pour qu'on puisse les confondre. Et ils ont pensé que, voilà, on a Abraham, donc on va enfin pouvoir mettre un terme à toutes ces, aux idées d'Abraham, qui se cassent les pieds, quoi, ils nous critiquent sans arrêt. Après, ils se sont aperçus que c'était Lot, et du coup, Midrash dit qu'ils ont mis Lot quasiment dans une cage, exposée, pour que tout le monde voit bien que Lot est prisonnier, en comptant sur le fait que Abraham va apprendre que Lot est prisonnier, il va venir faire la guerre pour essayer de le délivrer, puis on est assez nombreux et beaucoup plus forts que lui, on va pouvoir le tuer. Et on aura terminé avec Abraham. Et c'est vrai que Abraham n'est pas resté les bras ballants. Quand le fameux Og dont je vous ai parlé, venu lui raconter que Lot était prisonnier, alors il a décidé d'aller faire la guerre. Et alors, il y a deux versions possibles. Il a pris ses élèves, Visiblement, il avait là-bas 318 élèves. Il a pris ses élèves pour aller faire la guerre. D'autres disent qu'en vérité, il n'a pas pris d'autres personnes que Eliezer, son serviteur. La gematria d'Eliezer, c'est 318. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 318. Et juste en passant, ça a été reproché à Abraham d'avoir débauché les gens qui étaient en train d'étudier la Torah pour les amener faire la guerre. Alors, ce qui est très important dans cette guerre, c'est que quand on fait la guerre, souvent, on se dégrade aussi parce qu'on est obligé d'utiliser au moins les méthodes aussi puissantes que celles de l'adversaire. Et donc, on se salit les mains. Et Abraham ne voulait pas se salir les mains. Et donc, lui, il va faire une guerre. Et le Midrash dit que sa façon de faire de la guerre, c'est que il leur a jeté de la poussière et des fétus de paille. Mais eux, sur leur tête, ce qui tombait, c'est les armes. Et les bombes, les lances, ce que vous voulez. Et ce qu'eux ont jeté sur Abraham, c'est tombé aussi sous forme de poussière et de fétus de paille. Donc, Abraham ne s'est pas sali les mains pour ça. Et donc, il a gagné la guerre. Il gagne la guerre. Alors, il y a une chose très importante, c'est que quand il a fait la guerre, quand il est arrivé sur le champ de bataille, c'était la nuit. Or, à ce moment-là, on ne faisait pas la guerre la nuit. D'accord? Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de groupes électrogènes, etc. Donc, on ne pouvait pas faire la guerre. Mais Abraham Avinu, il a dit, si je ne fais pas la guerre pendant la nuit, alors Lot, il va être prisonnier encore une nuit. Donc, il va souffrir une nuit de plus. Donc, je vais faire la guerre la nuit. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il a fait la guerre la nuit. C'est-à-dire qu'il a transformé la nuit en jour. Cette nuit-là, c'est la nuit du 14 au 15 Nissan. Et donc, lui, il a transformé la nuit en jour dans la première partie de la nuit. Et Akadosh Baruch Hu a pris modèle sur Abraham, c'est la première fois que ça arrive. Et ensuite, je me suis remarqué dans David, marqué Hachem Tzilcha, Hachem est ton ombre. Donc, on voit bien qu'Hachem répond. Il nous répond comme on fait. C'est-à-dire, quelque part, c'est comme s'il s'inspirait de ce que font les hommes. Comme ça que Hachem a voulu que ça soit. Et donc, Hachem a dit à Abraham que cette nuit-là, cette demi-nuit-là, que lui a transformé en jour, quand je vous prie, va faire la même chose pour les descendants d'Abraham. À Yetsiat Misraïm, les Bnei Israël étaient libérés à minuit, à Hatzot, et à partir de la moitié de la nuit jusqu'au matin, c'était la nuit, mais elle a été transformée, on y voyait comme en plein jour à ce moment-là. Hachem a transformé l'autre moitié de la nuit sur le modèle de ce qu'Abraham avait fait. Il a fait la même chose pour les descendants d'Abraham. Donc, deux choses, ne pas salir les mains, et puis ensuite, transformer, y compris la nuit en jour, pour sauver, pour que l'autre ne souffre pas inutilement. Et puis, bon, ils ont gagné la guerre. Alors, il a poursuivi les ennemis en direction du nord, qui sont partis du côté du nord, et il les a poursuivis jusqu'à Damas. Et à ce moment-là, il n'a pas pu continuer. Quand il était au nord d'Israël, comme ça, il ne pouvait pas continuer. Pourquoi il ne pouvait pas continuer? Parce qu'il a vu que là, à cet endroit, là, dans le nord, Yerovam allait installer un veau d'or. Vous savez, quand on a partagé le royaume de Shlomo en deux, après la mort de Shlomo, son fils Rehovam n'a pas voulu écouter les Chachamim, et donc Hachem a partagé le terrain en deux. Rehovam, le fils de Shlomo, il a reçu deux tribus et demie en fait, et essentiellement dont Yehuda Binyamin, donc le Beth Amikdash aussi de Shlomo, et quelqu'un d'autre a reçu 10 des 12 tribus, 9 et demie en vérité, des tribus, les autres tribus. Et celui qui a reçu les autres tribus, ce n'est pas même quelqu'un de la tribu royale, il n'est pas de Yehuda. C'est quelqu'un de la tribu d'Ephraïm, c'est-à-dire de Yosef. Il s'appelle Yerovam. Et Yerovam, il faut imaginer la grandeur du bonhomme auquel Hachem donne 10 des 12 tribus pour être roi. Ça doit être. Et ce bonhomme-là, bon, évidemment, on lui a donné, visiblement, quand on lui a donné, quand Hachem lui a donné ça, il le méritait. Seulement, il a eu un problème, Yerovam, un problème qui était que 3 fois par an, il y a une mitzvah d'aller à la Régel, c'est-à-dire les gens, ses sujets vont devoir aller à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Et on ne peut pas imaginer qu'ils aillent au Beth Amikdash et qu'ils fassent un pas un peu allégeance à Rehovam en passant. Rehovam, il a son palais juste à côté. Il ne va pas les laisser, ils ne peuvent pas venir et lui cracher dessus et lui dire non, on fait le passé et on va au Beth Amikdash. C'est pas possible. Et donc, lui, il a dit, mais moi, je ne peux pas supporter que mes sujets, en quelque sorte, fassent un peu allégeance à Rehovam 3 fois par an. Alors, bon, il y a eu discussion, et il n'a rien voulu savoir, et il a décidé que, bon, il a coupé la route pour bon, de sorte qu'il ne puisse plus aller en Shalaim. Et il a décidé qu'il allait faire des contre-fêtes de pèlerinage. Et alors, qu'est-ce qu'on va, vers quoi ils vont? Il ne peut pas construire un deuxième Beth Amikdash, ça, c'était pas possible. Alors, il a réfléchi à qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et voilà la conclusion, c'est que, vous savez, quand les Bnei Israël étaient dans le désert, après Matan Torah, ils ont demandé à avoir des drapeaux, si vous voulez, des galim. Et sur les drapeaux, il y avait les emblèmes. L'emblème de la tribu de Yosef, à ce moment-là, c'était le taureau. Un taureau. Un jeune taureau, un veau, un taureau. Et c'est pour ça que ça a donné le veau d'or, d'ailleurs. Parce qu'il fallait remplacer Moshe. Les Israël ont imaginé, bon, Moshe, on ne sait pas ce qui est devenu de lui, il faut le remplacer. On va le remplacer par quelqu'un auquel on puisse dire qu'il nous a sortis d'Égypte, comme Moshe. Le seul personnage auquel on puisse attribuer quelque chose qui est de l'ordre de la sortie d'Égypte, c'est Yosef. Parce que Yosef, c'est lui qui nous a fait descendre en Égypte. Et on a déjà vu plusieurs fois dans les Shurim que la sortie d'Égypte, c'est pas une réparation d'un accident de l'histoire. On s'est retrouvé malencontreusement en Égypte et il a fallu en sortir. C'est exactement le contraire. L'essentiel, c'est de sortir d'Égypte. L'événement, c'était la naissance du peuple, c'est la sortie d'Égypte. Mais pour en sortir, il faut y aller. Et donc, celui qui nous a fait descendre en Égypte, c'est Yosef, puisque c'est lui qui a dit à Jacob de descendre, etc. Et donc, la descente en Égypte, c'est le commencement de la sortie. C'est pas un accident qu'il faut réparer. Le commencement de la sortie, c'était qui était l'essentiel. C'est descendre. Donc, Yosef, c'est le seul candidat possible pour remplacer Moshe. On pourra dire qu'il nous a sorti l'Égypte. C'est pour ça que ce qui est sorti, c'est le veau d'or, c'est l'emblème de Yosef. Et comme lui, Yerovam, c'est la tribu d'Ephraïm, Ephraïm, c'est le fils de Yosef, eh bien, l'emblème de la tribu d'Ephraïm, c'est le veau, c'est le taureau. Donc, lui, il a décidé qu'il y aurait au nord et au sud un taureau en or, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire des emblèmes de la tribu autrement qu'en or. Donc, les deux veaux d'or. Pas du tout pour en faire une idole. C'est les emblèmes de la tribu. On va monter le drapeau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait dit? On monte le drapeau. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si on monte le drapeau, mais on va monter le drapeau. On va honorer le drapeau, je ne sais pas comment dire. Voilà, on va honorer les emblèmes de la tribu. Mais Hachem lui a dit, ne fais pas ça, ça va mal tourner. Ce n'est pas possible, les gens ne savent pas comment honorer le drapeau en question sans que ça devienne une idolâtrie, ce qui s'est passé au Vaudor. Il a dit, non, non, moi, je vais le faire, on risque rien. Hachem lui a dit, je ne veux pas que tu le fasses. Alors Hachem lui a fait une proposition. Il lui a dit, écoute, si tu acceptes, on comprend que ce soit difficile, bon, il a fait de la psychologie, et c'est difficile pour toi d'accepter l'allégeance de tes sujets à Rochovam. Si tu acceptes, alors, à titre de la veau, je me promènerai avec David et avec toi. Il lui dit que il va avoir le même traitement que David. David, c'est d'abord, c'est le Mashiach, d'une part, et c'est deux générations au-dessus de lui. Lui, il a la génération de Rochovam, donc le petit-fils de David. Donc c'est un kavod énorme que Hachem lui donne. Alors Rochovam, il a dit, ok, vous me demandez de m'effacer devant le descendant de David. D'accord? Parce que dans ce monde-ci. Alors dans l'autre monde, c'est lui qui devra s'effacer devant moi. Donc, il a demandé qui va marcher devant? Rochovam ou David ou moi? Hachem l'a dit, si tu demandes, alors c'est pas toi. Et donc il a dit, ben, si c'est pas moi, alors je marche pas. Et il a fait les veaux d'or, il est devenu le roi, peut-être le plus, ou le deuxième, éventuellement Menaché, c'est encore pire, le plus idolâtre de toute l'histoire juive, quoi. Et son erreur, c'est que on sait très bien, c'est écrit que l'Atil Lavo va faire une ronde avec les tzadikim. Hachem sera au milieu et tout le monde sera à la même distance d'Hachem, puisqu'ils sont sur un cercle, et personne n'est devant ni derrière sur un cercle. D'accord? Il n'y a pas de devant et derrière. Personne n'est devant, derrière. Donc lui, il n'a pas imaginé que ça pourrait être comme ça. Et Hachem ne lui a pas dit. C'est bon. Et donc, ça, c'est le malheur. Et donc, c'est d'avoir vu que dans le nord, là où il était, il allait y avoir idolâtrie de la part de ses descendants, qui a empêché Abraham d'avoir la force de continuer à poursuivre ses ennemis et les détruire. Ça aurait certainement changé la face du monde s'il avait détruit vraiment tous ces pays, tous les Cananéens, tous ces gens-là, ils auraient été détruits. Ça a changé complètement la face du monde. En tout cas, il n'a pas pu, parce que, à cause de ça. Donc ça, c'est une chose très importante. Bon, ça, c'est ce que je voulais dire sur la guerre des rois. Alors, bon, un scrupule d'Abraham Avinu, il a pensé que finalement, il y a eu beaucoup de morts dans cette guerre. Il pensait que ça allait lui coûter ses mérites, en fait. Tout le miracle qu'Hachem a fait dans cette guerre pour lui. Hachem le rassure, il lui dit, après ça, la parole d'Hachem lui dit, « Al tira Abraham, anochi magen lach. » Ne crains rien, je suis ton magen, je suis ton bouclier. C'est le magen Abraham de la Amida, anochi magen lach. Personne n'est dans la Torah. Pour personne, Hachem n'a été le magen, sauf pour lui, pour Abraham Avinu. Et il lui dit, je te protégerai, etc. Et à ce moment-là, ton salaire est énorme. C'est à ce moment-là qu'Abraham Avinu nous demande, Hachem, matitenli. Qu'est-ce que ça veut dire, mon salaire? Mais qu'est-ce que tu vas me donner? J'ai même pas de descendants. Anochi aler hariri. Et c'est Eliezer, mon intendant, qui va hériter. Tu ne m'as pas donné de descendant. Alors, vine dvar Hachem elav. Vine de nouveau. Vine, ça veut dire il arrive quelque chose de nouveau là dans l'affaire. Hachem lui dit, non, il lui annonce quelque chose de tout à fait nouveau. Il lui dit, non, c'est pas Eliezer qui va hériter. C'est quelqu'un qui sort de tes entrailles, en fait. C'est un enfant à toi qui va hériter. Et ensuite, il lui montre les étoiles, lui dit, ta descendance, elle va être aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Alors, à ce moment-là, le pasouk dit, Vehemin Bashem, il a eu confiance, Abraham, il a fait confiance à Hachem. Une promesse dont on ne voit pas le début, le commencement de la réalisation, bien sûr. Voyez, Vehemin Bashem, Vehershvea lo tzedaka. La Kadosh Baruch Hu lui a compté ça comme une vertu, comme une tzedaka, comme la justice, comme une grande chose, quoi. Et alors il lui dit, il lui parle, Hachem lui parle, il lui dit, Ani, Hachem, Asher otseticha, meur kasdim, la tetlecha, et haaretz azot, le rishta. Il dit, je suis celui qui t'ai fait sortir de, c'est-à-dire visiblement, celui qui t'a parlé, là, que tu connaissais pas vraiment, c'est Hachem qui te parlait, c'est moi. Vraiment sur le modèle de la sortie d'Égypte, Asher otseticha, mais au Kasdim, je l'ai fait sortir de au Kasdim. Il est sorti de au Kasdim, c'est avec Terach. Quand il lui dit, je t'ai fait sortir de au Kasdim. Ça veut dire, tu es sorti de au Kasdim, c'est moi qui ai inspiré ton père de sortir de au Kasdim et de te prendre avec. Parce qu'Hachem lui l'a pas fait sortir de au Kasdim, c'est pas vrai. Non, c'est pas, le l'air de Kha, il n'est pas au Kasdim. Le l'air de Kha, il a eu lieu en Syrie. Bon. Donc, si on dit ça, ça veut dire que Hachem a vous dit, c'était moi qui ai inspiré, bien que tu n'as rien vu, on ne voyait rien, quoi. Tu penses que c'est ton père qui t'a pris, mais en vérité, c'est moi. Donc, on voit très, très bien ici qu'Akosh Boko peut très bien utiliser des choses qu'on ne voit pas du tout, que c'est lui qui est à l'œuvre, mais c'est lui qui est à l'œuvre, en fait. Alors, sur ce Vayarcheve, allo Tzedaka, il y a beaucoup à dire. Le Ramban dit à ce sujet-là, Ramban c'est donc superstar, hein, c'est plus grands commentateurs de la Torah, et aussi du Chas et tout, et on Mekoubal. Shoel Ramban, Eini Mevin, Ma'aschut Azot. Qu'est-ce que c'est que ce mérite? Pourquoi il ne le croirait pas? Lui-même, il est Navi, il est un prophète, donc il sait. Et il sait très bien qu'Hachem, c'est pas un homme qui va pas changer d'avis. Oumi est celui qui, par la suite, donc, va accepter de faire la shrita de son fils unique, celui qu'il aimait, et qui a passé toutes les 10 épreuves. Comment imaginer qu'il ne croira pas cette annonce. Alors, Ramban dit, Anachon Benay, Yomar Shemin Bashem, Vechashav ki betzidko shel HaKadosh Baruch Hu iten lo zera al kol panim, lo betzidkat Avraham ou bischaro. C'est-à-dire, le Ramban n'y va pas lire comme Rashi. Il ne va pas dire Shelo Akadosh Baruch Hu Chashav l'Avraham le Tzedaka. C'est pas que Akadosh Baruch Hu a compté ce que c'était Mouna d'Avraham comme une Tzedaka, comme une vertu. L'Avraham Avinu Zakaf et Zel et Tzedaka chez Akadosh Baruch Hu. Le Ramban il dit le contraire. Il dit que c'est en fait cette promesse là. C'est une promesse qu'Hachem fait Parce qu'Hachem est le tzaddik, en quelque sorte. Et, bon, ça veut dire, Hachem, c'est pas par le mérite, c'est pas en compensation, enfin, ou grâce au mérite d'Abraham qu'Hachem lui fait cette promesse, enfin, qu'il tient ça comme de la tzedaka, par toutes les promesses qu'il a faites, c'est pas à cause de son mérite. Mais c'est la tzidkout d'Hachem. Ah ben, c'est comme ça que le Ramban dit. C'est la tzidkout d'Hachem. Parce que comme ça, ça dépend pas du tout de la conduite des enfants d'Abraham. Abraham, il a un souci. Qui dit que mes descendants se conduiront suffisamment bien pour mériter tout ce qu'Hachem me promet là? Peut-être, il m'a promis, donc ça va se réaliser, mais peut-être on a ma bas, quoi, tu vas savoir quand. Peut-être mes enfants, ils seront pas à la hauteur, et donc, alors le Ramban, il veut pas ça, il veut lire, ok, Hachem, c'est une tzidkout d'Hachem, par conséquent, ça dépend pas de moi, ça dépend pas du mérite. Voilà, c'est ça. Alors le Maharal, là-dessus, il s'étonne, il dit, mais qu'est-ce que le Ramban dit? Le Ramban, il a dit, je m'étonne, et le Maharal dit, qu'est-ce qu'il s'étonne? Pourquoi il s'étonne? Ruim, chez Yeshna Tviya, al Moshe Rabbeinu, Yann Loeman Tembi. On voit bien que, quand je vous dis, reproche à Moshe Rabbeinu de ne pas lui avoir fait confiance, quand Moshe Rabbeinu a frappé le rocher au lieu de lui parler. Donc, pourquoi est-ce que on ne considère pas que c'est un mérite d'Abraham d'avoir fait confiance? Le Maharal, il ne comprend pas pourquoi le Ramban s'étonne tellement. Le Rav Volbe, il dit, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la notion de Emouna dans la Torah. Le Maharal l'explique. Chez Emouna, enena kefi she'anu choshvim. La Emouna, c'est pas comme nous le pensons, parce que chez nous, si un homme n'est pas un hérétique, un apikores, alors il est ma'amin. Ou bien on est ma'amin ou on est un hérétique. C'est-à-dire un croyant ou un non-croyant. Dans la Torah, c'est pas Shayar ici de parler la Amin. La Torah, Yatzma, Gilou, la Torah, c'est le dévoilement lui-même. Et quand il y a un dévoilement, on n'a pas besoin de croire. On l'a, tu l'as devant toi. C'est-à-dire, si je vous dis qu'aujourd'hui, maintenant c'est la nuit, vous n'avez pas besoin de me croire. Vous n'avez qu'à regarder par la fenêtre. Est-ce que le soleil luit ou pas? Et vous saurez qu'il fait nuit. C'est une chose évidente. Là-dessus, on ne peut pas parler d'Emouna là-dessus. Ce n'est pas de la Emouna, c'est du savoir. La Torah est un dévoilement à elle toute seule. Toute la Torah, c'est un dévoilement. Et dans un dévoilement, quand quelque chose est dévoilé, c'est pas un problème d'Emouna. Tu vois, regarde. Donc, quand on parle d'Emouna dans la Torah, c'est pas du tout la même chose que ce que nous, on appelle Emouna. Alors, c'est quoi la Emouna dans la Torah? Le Maharal explique que quand on dit qu'un homme est ma'amin, la emouna, ça veut dire que rien ne le fait bouger. Comme c'est marqué dans le pasouk au sujet de Moshe Rabbeinu, Loken avdi Moshe, ce que Hachem dit à Aaron et à Myriam. Le Rashbam dit, Néman, Kavua, ou Meyusad, Kolcha, Bayon. Il est fixe, il ne va pas bouger. Rien ne le fera bouger. Il fait confiance complètement. Le Mamin, il est comme un clou qui est planté très fortement. On ne peut pas le bouger. Ça va pas, ce qui se passe à l'extérieur ne va pas le faire changer d'avis. Quand Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham qu'il aurait un fils, donc comme je vous ai dit, Abraham et Sarah, c'était des vieillards. Et en plus, ils n'avaient pas les éléments a priori pour avoir des enfants. Ça n'a pas fait bouger Abraham. Le fait qu'on est vieux, etc., en vérité, ça ne l'a pas vraiment désarçonné. Ça ne lui a pas fait de doute, qu'est-ce que je me raconte là. Si Hachem a dit qu'il aura un fils, alors il aura un fils. Le rage, leur corps, etc., tout ça, ça change. Et le Maharal, il ajoute que l'aïmouna, elle oblige à être besimcha. Le Mamin, il est toujours besimcha. Parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Et donc, il n'y a pas de raison de se mettre en colère ou de s'attrister, etc. C'est ça la Emouna dans la Torah. Si on pouvait mesurer notre état d'âme, situation, alors ça ferait comme des zigzags chez nous. Chez un ma'amin, vraiment, c'est toujours une ligne continue. Pourquoi Hachem a reproché à Moshe Rabbeinu, Yann lo emante bi, vous m'avez pas, quoi, et Aaron, vous m'avez pas fait confiance, vous n'avez pas eu Emouna? C'est parce que au moment de Meriva, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Il leur a dit Shimuna, Amorim. La colère de Moshe Rabbeinu, c'est Kodesh Kodashim, si vous voulez. Bon. Mais c'est de la colère quand même. Donc je me redis que normalement, il n'y a pas de place pour la colère chez Moshe Rabbeinu. Chez un ma'amin. En fait, si la Emouna, c'était simplement d'être d'accord que les choses sont vraies, qu'elles vont se réaliser, alors il ne pourrait pas y avoir des niveaux d'Emouna. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et on a des preuves qu'il y a des niveaux d'Emouna. Mon cher Abbé le dit, pour dire au clan d'Israël qu'ils vont être libérés, c'est marqué Vayamen Ha'am, le peuple a eu Emouna. Donc Kriyat Yam Souf, c'est marqué Vayaminu Bashem Uv Moshe Avdo. On entend ici la Kriyat Yam Souf, la Emouna, c'est pas la Emouna qu'ils avaient avant, puisque tout à coup, on dit à ce moment-là seulement, ils ont eu Emouna en Hachem et en Moshe Rabbein. Parce que la Emouna, elle s'était affiné, clarifié. Donc, de façon générale, les différents niveaux, il y a des différents niveaux de d'émouna où l'émouna est plus ou moins claire, en fait. À la Mila de mon fils Moshe, c'est longtemps. Alors Moshe, on est voir, Moshe Soledjik, mon maître, était venu et il était, il se tenait comme d'habitude en arrière, ça. Et j'ai un copain, il ne connaissait pas du tout à Moshe, il vient vers moi et il me dit: qui c'est le type là-bas? Alors j'ai dit: pourquoi tu me poses la question? Et parce que ce type-là, on voit qu'il n'y a rien qui peut le faire bouger. Et vous avez c'était le béton armé. Ça, c'est ce que le Ravolbe a ramené dans le Shio concernant la Emouna. Il y a un midrash, Rabba. Amar Rabbi Yitzhak. Machal lechal, shaya over mi makom le makom. C'est quelqu'un qui allait d'un endroit à l'autre. Et à un moment donné, il a vu un grand château qui était en train de brûler. Il a dit: mais quoi, s'il n'y a personne dans ce château qui a l'air d'essayer d'éteindre l'incendie? Alors le propriétaire du château s'est montré à lui: c'est moi le propriétaire du château. Et c'est ce que dit le Midrash. Et il dit: car, de la même manière, le fichier Avram Avinu Omer, Avram Avinu, quand il regardait le monde, il disait: Tomar, Shaolam Azeh Blomanig, est-il pensable que ce monde n'a pas de manhig, quelqu'un qui dirige, quelque chose qui dirige ce monde. C'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui, il lui a dit: Anihu Bala Olam, c'est moi le maître du monde. Alors, le Briskerov a dit sur ce midrash que le midrash, il est là très très précis, parce que c'est un midrash sur le verset Ve'emin Ba'Hashem, sur ce verset qui dit que il a eu confiance en Hashem, c'est-à-dire Avraham a eu confiance qu'il y a un manig du monde. Immédiatement, Hashem lui a dit: Ani Hashem, Asher Otseti Chameo Kasdim. Donc Hachem s'est dévoilé à lui. Mais Breskov lui-même, il a dit: en vérité, le machal, donc la parabole ici, elle ne correspond pas au nimshal, elle ne correspond pas à la réalité. Dans le machal, dans la parabole, il y a quelque chose qui se manifeste clairement à ce bonhomme qui circule là dans le monde. Il se dévoile à lui complètement, il est en face de lui, il dit: c'est moi. Ça veut dire qu'au début, il a compris, le voyageur, il a compris qu'il doit y avoir un patron, il doit y avoir un maître, mais il ne savait pas qui c'était. Et quand le maître du château se dévoile à lui, alors maintenant, il sait aussi qui c'est, mais il savait déjà qu'il y en avait un, maintenant il apprend qui est le maître. Donc, le dévoilement ajoutait quelque chose à ce que savait le voyageur. Il savait: il y a un maître du château. Et maintenant, il sait, ce maître du château, c'est Monsieur Carcampion. Mais chez Avraham Avinu savait que Hachem était le maître du monde. Et donc, quand Hachem se dévoile à lui, à ce moment-là, comme il n'y a rien à voir, on ne peut pas le voir, Iloirani Adam Vachai. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce que ce dévoilement d'Hachem a apporté à Avraham de plus que ce qu'il savait d'abord? Alors, il a expliqué que le sechel de l'homme, il comprend la Emouna, c'est-à-dire qu'en fait, il comprend que les choses matérielles qui s'inscrivent dans le temps et l'espace. Ces choses-là, elles sont limitées. Et donc, c'est pour ça que le cerveau de l'homme, l'intelligence humaine, peut en faire le tour, elle peut le comprendre. Mais il y a des choses qui sont que le cerveau ne peut pas comprendre. Et quand Hachem s'est dévoilé à Abraham, dans cette prophétie, il pouvait comprendre Dvarim chez Eno Yachol Lasig, le Mocho Levat. Dans cette prophétie, il a pu comprendre quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre simplement rationnellement par la réflexion. Et c'est ça le supplément. C'est ça que vient nous dire le Machal. D'abord, il dit, le Machal, il n'a pas l'air de coller. Si, si, il colle. Parce qu'il y a vraiment un supplément. Supplément, c'est que, il y a un supplément d'Emouna, qui est que Hachem s'est dévoilé. Et c'est ça qui fait que le Machal correspond bien au Nimshal. Et c'est ça que le Briscao va utiliser pour expliquer une chose fondamentale concernant la mitzvah d'Emouna. Le Rambam, dans le Perek Aleph, Alakha Aleph du Sodei Torah, il dit Yesod a Yesodot ve'amud ha'chokhma leida shi'esham atzui rishon. Le fondement des fondements, le pilier des piliers de la sagesse, c'est de savoir qu'il y a un principe premier, quoi. Vous, Mamtsi Kol Nimtsa, c'est lui qui fait être tous les êtres. Kol Nimtsaim, Mishamaim, Vaharetz, tout ce qui existe dans le ciel, sur terre, et sur terre, toutes les choses, tout ça, c'est Hachem qui met tout ça en marche. Et plus loin, dans la Chavav, il dit, Yediat davar ze, la connaissance de cela, à savoir que Hachem est, il aura expliqué entre temps que Hachem est un, qu'il est nécessaire et que rien d'autre n'est nécessaire et que si lui n'était pas, alors rien n'existerait, enfin, pour tout Aristote, en fait, là-bas. Alors, la Yediat davar ze, c'est mitzvah tase shenemar anokhi Hachem elokecha. Il dit, c'est ça le contenu de la mitzvah qui dit, qui est Anochi Hashem Elokecha, qui est la première des Aseret Adibrot, sur lesquelles, comme vous savez, il y a une discussion pour savoir est-ce que c'est une mitzvah ou pas. Mon Rabbin m'envoie que la Yediya, c'est la mitzvah, le savoir. Mais dans le Sefer HaMitzvot, ce même Rambam, il écrit, là, qu'est-ce que c'est la mitzvah? Hi atzivu yasher tzivanu lehaamin ha'elakut v'ushenamim shiyesh sham ila v'siba. Il faut avoir confiance, avoir emouna dans la divinité, c'est-à-dire savoir qu'il y a une cause, il y a une siba, donc il y a une cause, et que c'est lui qui, cette cause, c'est lui qui fait tout exister. Et c'est ça qui est dit dans le verset, Hachem dit, Anochi Hachem Elokecha, etc. Donc, de ces paroles-là, on voit que la mitzvah, c'est une mitzvah de la Amin. Alors, d'abord, il a dit que la mitzvah, c'était la date, la Yedia, et maintenant, il dit que la mitzvah, c'est le Ha'amin. Il faut le savoir. Bon, la Yedia, c'est pas la même chose que la Emouna. La Yedia, c'est quelque chose qui se fait avec le Sehel, avec l'intellect, avec le Moach. Et la Emouna, c'est quelque chose qui passe pas par le Sehel. Cette contradiction, on la retrouve à plusieurs endroits. Parce qu'il y a des endroits où on voit que la mitzvah est considérée, elle est présentée comme le ha'amin, pour avoir confiance. Et d'autres endroits où on dit que la mitzvah, c'est la date. Donc, a priori, c'est contradictoire. Alors, Briskov, il a dit qu'il avait posé cette question à son père, Ephraim. Et son père lui a dit que de Bemakom chez Kalta, il dit Hasham Matrila Emuna. Son père lui a dit que là où termine le savoir, commence la Emuna. Alors il a expliqué, donc Briskov a expliqué ce que lui comprenait de ce que son père lui avait dit. Que la yédia, le savoir, la connaissance, c'est uniquement dans les choses que le sechel, que l'esprit humain est capable de comprendre. Et c'est limité parce qu'il faut que les choses, elles, s'inscrivent dans le temps et l'espace. Donc, c'est en fait des choses matérielles. Mais la émouna, elle concerne aussi des choses qui dépassent complètement l'esprit humain. Et c'est là qu'on a une mitzvah, une obligation, d'être ma'amin. Ces deux choses-là sont incluses dans la mitzvah d'Emouna. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on est capable de faire avec le sechel. Et après, quand le Sehel ne peut plus suivre, alors c'est un principe d'Emouna. C'est ça que le Midrash est venu dire. Qu'Abraham, il a eu le mérite qu'Hachem se dévoile en lui sous forme de nevoah, de prophétie. C'est-à-dire qu'il a pu saisir, si on peut parler comme ça, des choses qui ne sont pas saisissables par l'esprit. Parce que dans la nevoie, les choses qu'on peut saisir, si on peut parler comme ça, c'est beaucoup plus que ce que l'homme peut saisir avec son esprit. Donc, même des choses qui était dans son esprit jusque-là, sous forme de Emouna, c'est-à-dire Yesh Manig, il y a un Manig, il y a quelqu'un qui dirige le monde, et c'est des choses qu'on ne peut pas, que le corps, qu'on ne peut pas comprendre, par le Sechel. Nasul etzlo atab torat yedia gmura. Avec le dévoilement d'Hachem à ce moment-là, c'est devenu une yédia. C'est-à-dire, ça a dégringolé, si on veut parler, de nevoah à yédia. Et c'est ça ce qui s'est ajouté à Abraham quand Hachem s'est dévoilé à lui. Ce dévoilement de, Abraham savait qu'il y avait, c'était yédia. Et après, il a dû faire un effort pour passer à la nevoah pour faire confiance à Hachem. Maintenant, Hachem se dévoile. Et donc, il y a une partie qui est devenue Yedia. C'est l'autre partie de la Emouna. Mais un des fils de Briskov dit que peut-être on peut expliquer autrement ce que son grand-père a dit, en fait. Dans les livres des Rishonim, dans Rambam, dans Chovot HaLevavot, dans Kuzari, on trouve qu'ils ont, essayé de faire des démonstrations d'après le Sechel qu'il y a un créateur au monde et que ce créateur dirige le monde. Mais finalement, ces démonstrations-là, on s'aperçoit que ça ne marche pas. On ne peut pas faire la démonstration de l'existence de Dieu, évidemment. Alors, on peut expliquer comme ça. Mitzvah Tayedia, la mitzvah, le côté savoir, c'est chez Mechouyav Adam Leda, l'homme doit savoir de toutes ses forces, en fait, avec en réfléchissant et sur la réalité du Créateur et le fait qu'il dirige effectivement le monde. Il y a des choses qu'on peut comprendre un peu de façon rationnelle, certaines choses. Mais quand on n'arrive pas, quand la recherche, quand les réflexions n'aboutissent pas, ça c'est le moment où la Hédia est arrivée au bout de ce que l'homme peut comprendre. Et là commence à ce moment-là la Emouna. On a une mitzvah de croire aussi en des choses qui ne sont pas démontrables par le Sechel. Et donc on voit que ces deux choses que le Rambam a mentionnées, des fois Yedia, des fois Emouna, se complètent en fait. Les deux sont nécessaires pour accomplir complètement la mitzvah d'Emouna Bashem. La Yedia mikol ukoach haSechel et la Hakira levada lo sagil kiyum haMitzvah. Réfléchir, faire des recherches, ça ne suffit pas pour dire qu'on a accompli la mitzvah d'Emouna. Il faut que l'homme soit ma'amin aussi d'Emouna shena mikoach haSechel. Des choses qui, bon, c'est pas de l'ordre du compréhensible par le cerveau, en fait. Yesh le'olam manig, qu'on comprendra pas du tout, que le sechel de l'humain ne peut pas comprendre, et tout celui qui n'est pas ma'amin, il n'est pas vraiment ma'amin, il n'est pas vraiment ma'amin si on croit pas ça aussi. Je vais penser, bon, parler plus longtemps, mais j'avais pensé que si on regarde, par exemple, les miracles, ce qu'on appelle les miracles, alors on a l'obligation d'essayer d'expliquer les choses jusqu'au bout de tout ce qu'on peut expliquer. Ça fait partie de la mitzvah d'Emouna. Et maintenant, il y a aussi des choses. Une fois qu'on a été aussi loin qu'on pouvait, bon, il faut être ma'amin qu'il y a des choses qui dépassent. Mais il peut y avoir des transferts. Quand la science a avancé, il y a des choses dont on pensait qu'elles n'étaient pas pensables, qui sont devenues pensables. Donc elles sont de l'ordre de la idée. Et donc maintenant, si le miracle que j'ai, si je sais expliquer comment par un corail ou par n'importe quoi, l'eau du Nil était transformée en quelque chose qui ressemble, enfin, ou même du sang. Ok, j'ai l'obligation d'essayer de réfléchir comment ça peut se faire. Et après, peut-être qu'on n'arrive pas, on peut le rendre rouge, l'illusion, etc., mais ça va quand même pas devenir du sang. C'est vraiment du sang, c'est écrit dans la Torah. Donc ça, il faut maintenant après, maintenant, on passe à la Emouna. C'est-à-dire, au-delà. Mais il faut d'abord, pour dire que c'est un miracle, il faut d'abord avoir essayé toutes ses forces de l'expliquer. Et si j'arrive à l'expliquer, ben c'est pas un miracle, mais bon, c'est très bien. Ça fait partie de connaître la grandeur d'Hachem, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui l'a créé. Et il y a des choses qu'il nous a donné à comprendre, d'autres choses ne sont pas donnés à comprendre. Aujourd'hui, en science, c'est bien comme ça. Il y a des choses qu'on ne comprend rien, on ne comprend pas. Personne ne peut avoir le prix Nobel avec l'implication. Bon, personne ne comprend comment ça fonctionne, vraiment. Mais ça marche. Donc, tu es obligé de... Il y a quelque chose qui me dépasse. Voilà, je veux dire. Je vous souhaite, Hugo Chavez, Shabbat.